Paris.
Géopolitique, Christophe Paget.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un géopolitique consacré à la Russie. La Russie qui, lundi dernier, ouvrait officiellement la campagne pour la présidentielle, ce sera le 18 mars prochain. Une élection que devrait remporter, sans effort et manifestement dès le premier tour, Vladimir Poutine. Le maître du Kremlin serait alors en poste jusqu'en 2024, se hissant derrière Joseph Staline pour ce qui est de la longévité au pouvoir. Un pouvoir que Vladimir Poutine occupe depuis l'an 2000 et on constate ces dernières années un retour de la Russie sur la scène internationale. Diplomatique, mais aussi intervention militaire en Syrie, en Géorgie, en Ukraine. Moscou est également accusé de tenter d'influencer plusieurs élections en Occident, particulièrement la présidentielle aux États-Unis. Et en Russie même, que compte faire Vladimir Poutine? Quel programme pour ses probables 6 années à venir à la tête du Kremlin, dans un pays qui sort tout juste de 2 ans de crise économique? Avec nous pour en parler, Tatiana Kastoueva-Jean, directrice du Centre Russie NEI de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Votre livre, La Russie de Poutine en 100 questions, doit paraître début janvier aux éditions Taillandier. Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur à l'Institut français de géopolitique et chercheur associé à l'Institut Thomas More, auteur avec François Stomme de Géopolitique de la Russie aux Presses universitaires de France. Bonjour.
Bonjour.
Et puis avec nous, par téléphone, Cécile Vessier, professeur en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'Université Rennes 2 et auteur de Les réseaux du Kremlin en France aux éditions Les Petits Matins. Bonjour.
Bonjour.
Tatiana Kastoueva-Jean, je me tourne d'abord vers vous. Après une absence dans les années 90 pour cause de chute de l'URSS, Moscou est clairement de retour sur la scène internationale.
Évidemment, et c'était très visible depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Là, l'Occident s'est réveillé un peu en redécouvrant cette nouvelle Russie, alors qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs, notamment avec le discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, où il avait déjà clairement formulé son opposition à la domination américaine dans les affaires internationales, avait souligné la souveraineté de son pays et avait protesté contre le monde unipolaire sous l'égide américaine. Donc il y avait tous ces signes avant-coureurs, mais c'est avec l'annexion de la Crimée et évidemment ensuite avec l'opération en Syrie qu'on découvre vraiment la Russie qui mène une nouvelle politique étrangère très musclée.
Alors justement, Vladimir Poutine est intervenu en Syrie pour éviter la chute de Bachar el-Assad. Pourquoi cette intervention? Qu'est-ce que la Russie y gagne?
Il y a plusieurs raisons, à la fois des raisons globales et des raisons régionales. Je pense que Vladimir Poutine a été extrêmement marqué par l'opération en Libye des forces occidentales franco-britanniques et que le sort de Kadhafi l'avait marqué à titre personnel. Et à partir de là, il se dit les régimes change venant de l'extérieur, jamais plus. Surtout que son troisième mandat commence aussi dans un cadre où il y a des protestations sociales en 2011 et 2012. Donc il y a une jonction entre la politique intérieure et la politique internationale qui se fait autour de cette opposition aux révolutions de couleur et au régime change. Et donc Vladimir Poutine intervient pour soutenir le régime de Bachar el-Assad en se disant en même temps, je suis peut-être le prochain sur la liste. Et il y a aussi d'autres raisons. Il ne faut pas balayer d'un revers de la main les raisons de la lutte antiterroriste. Il y a quand même entre 4 et 5 000 originaires de Russie dans les rangs de l'État islamique. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Vladimir Poutine est intervenu. Sauf que dans sa conception, lutter contre le terrorisme, c'est justement soutenir le régime de Bachar el-Assad, parce que c'est son avancement qui va créer, selon les Russes, le vide qui sera rempli par les forces radicales, extrémistes et terroristes.
Jean-Sylvestre Mongrenier, cette intervention en Syrie, est-ce que c'est aussi un étalage de puissance militaire, puissance diplomatique aussi, montrer qu'on est un acteur important sur lequel il faut compter aujourd'hui?
Oui, et il y a des raisons géostratégiques qui viennent compléter ce qui a été dit précédemment. Il y a des points d'appui en Syrie qui sont hérités de la période soviétique, étaient tombés un petit peu en déshérence dans les années 90-2000. Par exemple, la fameuse base navale de Tartous, en fait, était plutôt un bateau atelier jusqu'à ces dernières années. Il y a une volonté de refaire de ce point d'appui une véritable base. S'y ajoute la base qui se trouve à 25 km au sud de Latakié, à la base de Mémine. Là, c'est une base aérienne qui constitue un autre point d'appui. Et donc, cette intervention en Syrie, c'est d'une part le retour en Méditerranée orientale. Et puis, on pourrait faire remarquer d'ailleurs que la base de Tartous est à peu près à mi-chemin des détroits turcs et du canal de Suez. Donc, il y a aussi au-delà la projection vers l'océan Indien. Et cette présence présence en Syrie, ou en tout cas dans la Syrie utile, qui est forte, qui repose sur le régime et sur Bachar al-Assad, qui est la clé de voûte du régime. Et le pouvoir russe, à mon sens, a estimé qu'il n'y avait pas de solution de rechange à Bachar al-Assad. C'était leur homme, et donc il fallait préserver à tout prix son pouvoir pour préserver les actifs géostratégiques de la Russie dans la région. Donc cette présence en Syrie, c'est également un vis-à-vis, une porte d'entrée au Moyen-Orient. Et donc il y a la volonté russe de développer à nouveau une politique de puissance au Proche-Orient, au Moyen-Orient, de finalement revivifier l'héritage soviétique. Il me semble qu'on ne prend pas suffisamment en compte cet héritage soviétique. Souvent on s'interroge sur Poutine, le racisme, l'orthodoxie, sur les différentes idéologies ou représentations globales qui peuvent inspirer sa grande stratégie, sa politique générale et sa grande stratégie. Moi, à mon sens, c'est avant tout un produit de l'ère Brejnev, un nostalgique de l'URSS des années 70, donc à une époque où l'URSS n'avait jamais été aussi puissante à certains égards, en tout cas en termes de projection dans le monde, avec une flotte soviétique, par exemple, qui se déployait jusque dans le Pacifique Sud, même si ça n'avait pas un grand impact sur les équilibres mondiaux. Et donc, il y a la volonté de retrouver ce qui a été perdu au cours des 25 dernières années.
Et puis pour le coup, la Russie au Proche-Orient, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'elle arrive à parler avec tout le monde, puisqu'il y a certes, par rapport à la Syrie, un axe Russie-Iran-Turquie, mais ça ne l'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite.
Oui, enfin, bonnes relations.
D'avoir des relations, en tout cas.
C'est la raison d'État qui parle des deux côtés. Et du côté de l'Arabie Saoudite, il y a la prise en compte du fait que le régime de Bachar al-Assad, une fois qu'il est appuyé par la Russie et par l'Iran, ne tombera pas. Il y a une volonté peut-être de la part de l'Arabie Saoudite, d'un certain nombre de régimes du Golfe, comme les Émirats Arabes Unis, d'éviter que ce mariage de raison, cette véritable alliance entre la Russie et l'Iran, ce mariage de raison ne se transforme en mariage d'amour, donc essayer de jouer les tiers dans cette affaire. Mais bon, maintenant parler à tout le monde, c'est une chose. Transformer en gains politiques dans la durée les gains militaires en Syrie, c'en est une autre. Il y a quand même toutes les contradictions de l'alliance avec l'Iran. Si par exemple la Russie voulait alléger sa présence, on peut penser que Israël n'accepterait pas de voir le Hezbollah renforcer sa présence sur ses frontières, sur le plateau du Golan, de voir des bases iraniennes implantées en Syrie, et puis que ça pourrait très bien déboucher sur une intervention militaire d'Israël. Par ailleurs, il y a toute la relation avec la Turquie qui est complexe. Je ne pense pas pour ma part qu'on puisse parler purement et simplement d'un renversement d'alliance. C'est vraiment de la tactique à court terme. Il y a le facteur kurde dans cette affaire, donc il parle peut-être avec les Turcs et ils parlent peut-être avec les Kurdes, mais il y a bien un moment où les contradictions seront si puissantes qu'il peut se prendre les pieds dans le tapis pour parler de manière commune. Donc je pense qu'il ne faut pas surestimer cette puissance diplomatique russe. En fait, ils sont rentrés comme dans du beurre parce qu'il y avait un vide de pouvoir, parce que du côté américain, on n'a pas voulu s'impliquer de manière active dans la question syrienne. Et donc à partir du moment où en 2013, Obama n'a pas respecté la ligne rouge qu'il avait lui-même fixée et donc n'a pas frapper le régime, du côté de Vladimir Poutine, on a bien compris qu'on pouvait y aller. Et en fait, Vladimir Poutine a fait tout ce que Obama n'a pas voulu faire, notamment mettre en place une zone d'exclusion aérienne.
Cécile Vessier, par cette intervention militaire en Syrie, Vladimir Poutine a complètement changé le cours de la guerre. Là, aujourd'hui, du coup, il s'affirme au niveau diplomatique et militaire comme un acteur de premier plan au niveau mondial.
Oui et non. C'est-à-dire que bon, le rôle de la Russie en Syrie est absolument incontestable. En même temps, et je crois que Tatiana Jean l'a rappelé, on voyait ce changement de politique se pointer depuis le discours de Munich, qui a marqué un nouveau ton. Et qu'est-ce qu'il disait à Munich, Vladimir Poutine ? On en a assez d'un monde qui est dirigé par les États-Unis, on veut un monde multipolaire. Bon, au bout du compte, tout le monde a intérêt à un monde multipolaire, où il y a comme ça des équilibres et des présences. Sauf que, comment on va définir la puissance ? Est-ce que la puissance, c'est uniquement le fait que vous intervenez dans un pays étranger et au bout du compte, vous avez une action qui est, je dirais, ce qu'elle est, qui peut être jugée de manière assez différente selon les intervenants, et qu'au bout du compte, tout le monde, à commencer par vos voisins, vous craint. Parce qu'on faisait référence à la situation dans l'URSS brejnevienne. Effectivement, dans les années 70, il y avait une puissance diplomatique, une puissance d'intervention soviétique. Il n'empêche que ce régime s'est effondré comme un jeu de cartes, notamment parce que l'économie ne fonctionnait pas. Et là, j'ai un petit peu la même chose aussi, c'est-à-dire que M. Poutine essaie finalement de régler ses difficultés intérieures en essayant aussi de montrer à son peuple, regardez comme on est fort, on intervient en Syrie, on fait peur à la Turquie, on intervient dans les anciennes républiques pour leur montrer que nous sommes là, et au bout du compte, je dirais, ça ne règle aucun des problèmes intérieurs. Vous avez dit que la Russie sortait de la crise économique, j'aimerais en être aussi sûr que vous. J'ai l'impression qu'elle ne sort pas de cette crise économique et qu'il y a une vraie crise politique et une vraie crise de confiance qui est au contraire en train de mûrir après ces années de pouvoir, je dirais, incontesté de M. Poutine.
Alors vous parlez de crise interne, mais par rapport à l'Union européenne, les relations sont aussi extrêmement tendues depuis l'intervention russe en Géorgie en 2008, et puis évidemment depuis l'intervention en Ukraine en 2014. Après l'annexion de la Crimée, l'Union européenne a régulièrement renouvelé et élargi ses sanctions envers Moscou. De son côté, la Russie a mis en place des contre-sanctions. Au niveau diplomatique, au niveau économique, est-ce qu'on a deux blocs qui se séparent ou est-ce que c'est plus compliqué, Tatiana Jean?
C'est assez compliqué. D'une part, c'est comme pour la stratégie et le grand retour de la Russie sur la scène internationale. Les problèmes dans les relations avec l'Union européenne ne datent pas d'hier non plus. Malgré l'existence de plusieurs enceintes formelles, souvent c'était quand même assez vide de contenu. Toutes ces rencontres deux fois par an, Russie, Union européenne, etc. La mise en place de quatre espaces de coopération, on avait du mal à remplir. Le partenariat pour la modernisation, pareil, ça pataugeait. Donc il y avait quand même déjà tout un bagage problématique avec lequel on arrive à cette crise ukrainienne. Et aujourd'hui, en fait, la Russie essaie de jouer sur plusieurs plans. Sur un plan, elle essaie de dissocier les États-Unis et l'Europe pour essayer d'avancer un petit peu plus avec l'Europe éventuellement. Au sein de l'Europe, elle joue les clivages entre les différents pays, ce qu'on appelle la Nouvelle Europe et la Vieille Europe. Et même au sein de chaque pays, en fait, elle essaie de miser sur certaines forces qui sont plus compréhensives vis-à-vis de la politique russe que d'autres forces politiques. On avait bien vu ça en France, sur les cinq candidats majeurs à la présidentielle, il y en avait trois qui défendaient, avec des degrés différents et des nuances, la politique de Vladimir Poutine.
Jean-Sylvestre Mongrenier.
Oui, effectivement, le partenariat Union européenne-Russie qui avait été lancé dans les années 2000, il a vite été vidé de substance à partir du moment où finalement il y a une sorte d'émancipation, si je puis dire, même si le vocabulaire là en l'occurrence est positif, mais c'est pas ce que je pense. C'est-à-dire que finalement, au départ, dans les années 90, les dirigeants russes s'inscrivaient ou en tout cas affirmaient s'inscrire dans une logique de transition vers l'économie de marché, vers la démocratie libérale. Et puis dans les années 2000, fin des années 90, il y a déjà des premiers signe à Souyeltsine, mais c'est surtout Poutine qui fait la différence. Il y a la volonté de définir son propre programme, en quelque sorte, et il n'est pas question de se mettre à l'école de l'Occident en général, de l'Union européenne en particulier. Donc il y a une volonté de renégocier tout ça, et puis de se limiter finalement à une source de business énergétique, sans réforme politique, sans réforme économique, et donc très vite, ça a patiné. Alors c'est vrai qu'il y a des contradictions à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'OTAN, parce que tous n'ont pas tout à fait la même vision des choses, et du côté russe, on considère que ce sont des instances, qu'on appelle les instances euro-atlantiques, Union européenne, OTAN, qui datent d'une autre époque, qui devraient s'effondrer finalement, et puis les Américains devraient se retirer. C'est un petit peu leur perception du monde. Mais bon, ce que l'on constate depuis 2014, c'est que d'abord, les sanctions ont été adoptées, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui pronostiquaient un échec total, l'Allemagne qui ferait prévaloir ses intérêts économiques et commerciaux sur les intérêts de sécurité, et à partir de là, il n'y aurait pas de sanctions adoptées, ça serait une sorte de chicken run. Tout le monde partirait dans tous les sens, c'est pas le cas, ça a été adopté, et depuis c'est reconduit tous les 6 mois. Alors pourquoi? Parce que effectivement chacun a effectivement des intérêts économiques, commerciaux et à court terme qui parfois peuvent être assez gratifiants économiquement parlant, mais en même temps il y a les intérêts de sécurité. Et avec l'annexion de la Crimée et le déclenchement donc d'une guerre hybride au Donbass, et bien finalement c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte, parce qu'il faut pas penser que tous les conflits territoriaux, les conflits ethniques nationaux qui datent de plusieurs siècles en Europe ont purement et simplement disparu depuis 1945. En fait, ils ont été mis sous le boisseau. Quelque part, ils ont été congelés et puis ils ont été transcendés par l'existence de l'Union européenne et de l'OTAN. Et là, ce que chacun craint, c'est que finalement, ça se transforme en un conflit général. Chacun a des revendications. Après tout, tous les arguments historiques ont été mis en avant par Poutine pour justifier l'annexion de la Crimée. Les Allemands pourraient les faire valoir pour l'ancienne Königsberg, l'actuel Kaliningrad, qui a été quand même pendant 500 ans sous souveraineté allemande. Donc tout ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense pense que beaucoup de monde en est conscient. Et en dépit à des divergences, eh bien, on a 28 chefs d'État et de gouvernement qui sont tombés d'accord sur ces sanctions. Et ce même consensus, on le retrouve à l'intérieur de l'OTAN.
Alors, il y a une autre partie du monde où on parle beaucoup de l'influence russe. Ce sont les États-Unis, avec ces accusations d'ingérence dans la présidentielle et les soupçons de collusion entre l'équipe de Donald Trump, le président américain, et le Kremlin. Cécile Vessier, pourquoi Vladimir Poutine aurait voulu faciliter la venue du républicain au pouvoir?
Je pense déjà qu'il doit s'en mordre les doigts actuellement, mais enfin, c'est un avis personnel. Mais je crois qu'effectivement, d'après ce qu'on voit, parce qu'il y a quand même actuellement une enquête qui est en cours aux États-Unis, et il y a d'autres enquêtes dans différents États sur les différentes formes d'ingérence russe, que ce soit, je dirais, par le bien de liens personnels, ce qui a été apparemment très présent aux États-Unis, que ce soit par le hacking d'un certain nombre de systèmes informatiques, ce qui a été également le cas aux États-Unis apparemment, ou par d'autres méthodes, jusqu'au financement de certains partis, ce qu'on voit en Europe. Bon, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre quand on parle aussi d'ailleurs des relations entre la Russie et l'Union européenne. Dans l'Union européenne, nos États, quels qu'ils soient, je dirais bons, mauvais gouvernants, partent du principe que ce qu'il faut, c'est développer une économie qui fonctionne, ne serait-ce que pour que les peuples les réélisent éventuellement aux élections suivantes. En Russie, M. Poutine n'a pas du tout, je dirais, cette même contrainte, c'est-à-dire que l'économie passe de toute manière derrière tout le reste. Quand on parle de puissance russe, il faut bien se dire que la puissance russe, elle n'est pas économique. La Russie n'existe pas en tant que puissance économique. Et au lieu de développer justement son économie, et ça je pourrais vous donner je ne sais combien d'exemples, ne serait-ce que par exemple le nombre de petites et moyennes entreprises qui est ridicule par rapport à celui d'un autre pays qui n'est pas démocratique, la Chine. Monsieur Poutine s'est dit on va régler les problèmes à l'extérieur et redevenir une puissance, notamment en influant sur les gouvernements des uns et des autres, selon quoi il reprenait complètement des méthodes soviétiques. Et là, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit. C'est un soviétique formé par le KGB qui a des méthodes de soviétique et donc une approche qui consiste à dire on va infiltrer, on va trouver, je dirais, des idiots utiles, on va influer sur l'un, influer sur l'autre. Et éventuellement, d'ailleurs, ce qui pourrait s'avérer intéressant dans le cas de Trump, c'est réutiliser des liens qui, peut-être, on va voir où mène l'enquête sur ce plan, ont été créés il y a déjà très longtemps, au moins dans les années 80.
Tatiana Jean, les relations sont assez étrange entre les États-Unis et Moscou, puisque d'un côté, on a, dernièrement, il y a eu un rapport de l'administration Trump qui présentait la Russie et la Chine comme des puissances rivales qui essayaient de remettre en cause l'influence, les valeurs et la richesse de l'Amérique. On avait le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui disait que les divergences persistantes sur l'Ukraine faisaient obstacle à toute normalisation des rapports entre les deux pays, donc des mots assez forts. Et dans le même temps, quand Trump et Poutine parlent l'un de l'autre, on a l'impression qu'ils se lancent quand même pas mal de fleurs. Donc, éclairez-nous là-dessus.
C'est assez surprenant, en effet. Depuis un an, au début, la Russie s'est vraiment réjouie de l'élection de Trump. Je me souviens que la directrice générale de Russia Today en Russie voulait se balader à Moscou avec le drapeau américain parce qu'ils l'ont mérité. Les députés ont applaudi cette élection. Mais par la suite, les Russes ont été vite désenchantés. Finalement, les relations sont bloquées depuis un an et n'avancent pas, même si il faut reconnaître que Vladimir Poutine et en interne, en Russie, il n'y a pas du tout la même campagne de noircissement comme c'était lancé contre Obama, surtout vers la fin de son mandat. Trump, c'est comme si on essayait de ne pas l'handicaper, on espérait toujours encore de pouvoir reconstruire la relation. Et l'exemple très flagrant, c'est il y a quelques jours, Vladimir Poutine a téléphoné à président Donald Trump pour le remercier d'avoir aidé à déjouer un attentat qui se préparait à la cathédrale de Kazan, à Saint-Pétersbourg. Donc en effet, on a les deux facettes en ce moment sans trop savoir où ça va mener. En même temps, les Russes essaient de débloquer les relations par le haut, par les discussions sur les grands traités, sur le désarmement nucléaire, etc. Et ça bloque aussi des deux côtés.
Géopolitique, on marque une pause, le temps d'un nouveau journal sur la radio.
Géopolitique, Christophe Pagès.
Géopolitique, seconde partie, toujours consacrée à la Russie, qui se prépare à la présidentielle du 18 mars prochain. Vladimir Poutine est bien parti pour la remporter dès le premier tour. Vladimir Poutine au Kremlin depuis l'an 2000 et qui, s'il est une nouvelle fois élu, y resterait jusqu'en 2024. On va d'ailleurs, dans cette seconde partie, se concentrer sur la Russie de Poutine. Avec nous pour en parler, Tatiana Castoué-Vajan, directrice du centre Russie-NEI de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur du livre « La Russie de Poutine en 100 questions » qui doit paraître début janvier aux éditions Talendier. Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut français de géopolitique et chercheur associé à l'Institut Thomas More, auteur avec François Stomme de Géopolitique de la Russie aux presses universitaires de France. Et puis par téléphone, Cécile Vessier, professeur en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'Université Rennes 2 et auteur de Les réseaux du Kremlin en France aux éditions Les Petits Matins. Alors justement, Cécile Vessier, avant de parler de la Russie de Poutine, un mot sur cette volonté de Moscou ces dernières années de renforcer son influence dans le monde par l'intermédiaire de médias d'État internationaux comme l'agence Sputnik ou la télévision RT, ex-Russia Today, qui d'ailleurs a ouvert une antenne en France et en français la semaine dernière.
Je dirais que c'est une politique qui est très claire, qui est dans la tradition de la politique soviétique qui avait déjà ses médias, c'est-à-dire que maintenant on a cette chaîne de télévision en français sur le modèle de chaîne qui existait déjà en anglais, en espagnol et je crois en arabe, et qui diffuse, alors qu'auparavant RT et Sputnik ne circulaient que sur réseaux sociaux. C'est quelque chose auquel la Russie consacre beaucoup d'argent pour essayer d'influer sur une partie de la société française. Moi, j'ai qu'une chose à regretter, c'est que la Russie, d'une part, ne consacre pas cet argent à une société qui est dans la détresse, et je pense au problème de paiement des retraites en Russie qui est réel. Je pense au niveau de vie d'une grande partie de la population qui est extrêmement bas. Et c'est dommage, je dirais, de dépenser de l'argent à l'extérieur, mais c'est aussi révélateur de certains choix qui sont faits. Alors vous savez, donc RT a commencé à diffuser, moi je n'ai pas regardé, hein, j'avoue, mais on m'en a fait un compte-rendu. Il y avait notamment tout un film sur « Regardez comme la vie est merveilleuse » en Corée du Nord. Donc je ne suis pas complètement sûre que ça va réussir à séduire les Français. Je m'étonne que les médias russes qui sont persécutés en Russie, où on a eu, je dirais, une limitation de la liberté d'expression et de la liberté d'informer constante depuis 15 ans, soient maintenant réduits aux yeux des Occidentaux à RT et Sputnik, qui sont des chaînes d'État financées à 100% par le Kremlin, qui ne reflètent ni la diversité russe, ni ce qui se fait bien en Russie, qui ont juste pour volonté d'essayer de cultiver des peurs, de cultiver, je dirais, des changements de position en France vis-à-vis d'un certain nombre d'États, et l'exemple que, curieusement, de la Corée du Nord en était un.
Jean-Sylvestre Montgrenier, quel est le rôle de ces médias? Cécile Vessier disait qu'il s'agit d'influencer une partie de la population française. Quelle partie?
Oui, on sait qu'il y a certains partis politiques, comme le Front National, une partie des Républicains, pas qui regardent la Russie avec les yeux de chimène. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait nouveau. Même certains philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, hein, voyez, en Catherine II, une Sémiramis du Nord. Donc, il y a une vieille histoire française vis-à-vis de la Russie avec beaucoup d'illusions. Ça sert un petit peu de surface de projection, pour les uns et pour les autres. Maintenant, ce sur quoi il faut insister, et ça vient d'être dit, c'est que ça n'est pas du soft power. Hein. C'est souvent, j'entends parler de soft power, il faudrait se reporter à Joseph Nye, quand il forge le concept de soft power, pour expliquer finalement l'attraction de la société américaine, de la culture américaine, du modèle américain, et il dit que, bon, objectivement, ça contribue à la puissance des États-Unis, mais ça ne signifie pas que Hollywood et d'autres productions culturelles sont dans la main et au service du gouvernement fédéral. C'est une contribution objective. Tandis que là, c'est de la propagande, c'est pas autre chose. C'est une guerre de l'information. Et donc, il y a une volonté, non pas tellement de convaincre vis-à-vis de l'extérieur, me semble-t-il, mais plutôt de perturber les raisonnements, de perturber les représentations. C'est-à-dire, on joue avant tout sur le pouvoir de nuisance. Finalement, le message subliminal, c'est tout vaut tout, rien ne vaut rien. Ça véhicule une sorte de nihilisme. Il n'y a pas de hiérarchisation de l'information. Il n'y a pas un minimum d'objectivité. Même quand on veut essayer de faire prévaloir son point de vue, on peut quand même partir d'un certain certain nombre de faits objectifs et puis après travailler sur l'angle en quelque sorte et puis montrer que c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, on n'hésite pas à faire dans la grosse cavalerie, si je puis dire, peu importe que l'on mente effrontément.
Tatiana Jean, il s'agit peut-être aussi de contrer les critiques adressées à la Russie par les médias. Là, on parle de l'exemple de la France, par les médias français. Mais c'est vrai que là, je vois que, par exemple, Russia Today a 25 bureaux sur 4 continents. Sputnik émet des dépêches en 4 langues. Elle a des radios locales en 30 langues. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus étendu que la France. Donc, est-ce qu'il s'agit de, au-delà de porter la bonne parole russe, on va dire, de contrer les critiques faites sur l'action russe?
Oui, absolument. Il s'agit de défendre la politique russe en interne, en extérieur, de présenter, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, présenter une image différente de la Russie, tout en influant sur les perceptions de ces sociétés occidentales, vis-à-vis de leur propre gouvernement. En fait, quand on parle des publics que ces médias-là peuvent attirer, je pense que c'est un public des personnes déçues par l'establishment, les personnes qui votent pour les partis extrêmes, qui ont envie de changer de choses, qui sont pas satisfaits du politiquement correct, du cours des politiques intérieures et extérieures. Bon, c'est bien que ces médias-là, le média Russia Today joue sur l'anti-américanisme, sur l'euroscepticisme, sur tous ces sentiments-là. La grande question, en fait, quelle est l'évolution de ces médias à l'horizon de 5 ans, 7 ans, 10 ans, et quelle influence ils peuvent avoir, quel impact sur les jeunes?
Alors, on va se concentrer maintenant sur la Russie elle-même, puisque les élections, c'est pour le 19 mars. Vladimir Poutine vient de dire qu'il était candidat. Voilà, comment vend-il sa candidature aux Russes? À quoi doit ressembler Poutine 4, s'il va exister, Tatiana Jean?
On a fait beaucoup de suppositions. Comment pouvait être cette campagne présidentielle? Avec quoi il pourrait attirer l'électorat? Et finalement, en fait, la campagne, elle est assez plate, elle est assez technocratique. Il n'y a pas de grand slogan. Grandes idées qui ressortent, voilà, mais on a du mal en fait. Déjà, quand vous regardez qui sont les candidats en face et quel est le discours d'emblée qui est tenu, j'ai l'impression que surtout on mise sur le statu quo. Ça va continuer avant, on a beaucoup acquis et on va préserver ces acquis. Il n'y a rien qui est promis aujourd'hui en matière économique, ça va peut-être venir, mais ça me semble assez difficile, même si la situation s'est stabilisée. Et il y a quand même beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui se passe si demain il y a le cours du pétrole, qu'on ait une nouvelle baisse? Et c'est possible si jamais l'accord avec l'OPEC ne tient pas.
Et puis il y a les sanctions occidentales.
Il y a les sanctions occidentales et on attend un nouveau train au mois de février. Qu'est-ce que ça va entraîner pour les investisseurs? Y en aura-t-il qui vont sortir des obligations, les emprunts fédéraux? Ça peut aussi entraîner la dévaluation du rouble. La situation, elle est quand même assez fragile côté économique. Et côté politique, comme je disais, on a la vieille garde qui se présente, à l'exception peut-être de Ksenia Sobchak, si je parle des candidats qui comptent un petit peu, parce qu'il y en a une vingtaine, mais il y en a dont on ne connaît vraiment rien et qui ne sont pas crédibles.
Alors, il y en a que les Russes connaissent, et peut-être même depuis trop longtemps, les principaux candidats. Le leader du Parti communiste de la Fédération de Russie, Gennady Zyuganov, qui est crédité de 3% des voix. L'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, le chef du Parti libéral-démocrate de Russie, 6% des voix. Ce sont des gens, Tatiana Jean, je parle sous votre contrôle, qui sont plutôt des critiques modérées et qui ont tendance à, en fait, appuyer la politique étrangère de Vladimir Poutine, donc opposants pas vraiment.
Il y a même un mot spécial en russe pour les désigner, c'est l'opposition systémique intégrée dans le système ou l'opposition parlementaire. Et il est vrai que ces partis-là ont pu s'opposer à la marge à la Russie unie, le parti au pouvoir, en critiquant sur les sujets économiques et sociaux. Mais depuis 2014, en fait, depuis l'annexion de la Crimée, il y a un alignement très net de tous ces partis-là qui sont représentés au Parlement sur la politique autant étrangère que la politique intérieure. C'est pas de là que viennent les vraies critiques aujourd'hui, et c'est pas de là que Vladimir Poutine va attendre une vraie opposition. On parle même de ces personnes, des chefs de parti que vous avez nommés, comme des sparring partners, c'est-à-dire les partenaires d'un combat qui est un peu artificiel.
D'entraînement,
voilà, merci.
Cécile Vessier, le seul véritable candidat, c'est Alexei Navalny du Parti du Progrès, c'est l'opposant principal au Kremlin, mais lui ne pourra pas participer manifestement au scrutin.
Oui, tout à fait. Moi, je voudrais juste citer une petite scène qui m'a quand même sidérée ces derniers temps. Il y a quelques jours, M. Poutine donnait sa grande conférence de presse annuelle où il y avait donc plus de 1500, je crois, journalistes qui viennent lui poser des questions. Et à un moment, notamment, il y a eu une intervention justement de Xenia Sobchak, sur laquelle on pourra revenir, qui, a priori, si elle reçoit les signatures nécessaires, donc sera candidate du point de vue de l'opposition.
Alors Xenia Sobchak, c'est une journaliste qui était ces dernières années journaliste dans une télévision d'opposition et elle est aussi ancienne star de la télé-réalité.
Xenia Sobchak, c'est plus compliqué parce que c'est une journaliste, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années, intelligente et bien formée incontestablement. C'est aussi la fille d'Anatoly Sobchak qui était un homme politique, je dirais, important au niveau national, apparu à la fin des années 80 et qui a été le mentor et le chef de M. Poutine à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire que Xenia Sobchak, il la connaît depuis qu'elle est toute petite. Donc on a, et ça c'est aussi un phénomène intéressant en Russie actuellement, c'est-à-dire on a des tas de rumeurs qui se répandent en disant oui mais elle est la candidate du Kremlin, c'est fait exprès pour justement couper la voie à Navalny, etc. C'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance absolue dans les institutions, dans les candidats, je dirais, qui me paraît général. Et en tout cas, cette Xenia Sobchak, donc qui, encore une fois, une jeune femme intelligente, prend la parole et dit à Poutine, qu'elle connaît depuis toujours, écoutez, moi j'essaie de faire campagne en Russie, donc de faire ce que ferait n'importe quel candidat, d'aller dans telle ville, etc. On refuse de me louer des salles, on refuse de louer des salles à d'autres candidats de l'opposition. Alors ça, ce sont des vieilles méthodes soviétiques, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas que votre opposant s'exprime, vous faites pression au niveau local sur les hôtels, par exemple, sur les restaurants susceptibles de louer des salles, de manière à ce qu'ils ne louent pas des salles aux opposants. Et elle dit ça donc à Poutine en disant « Navalny ne peut pas faire campagne parce qu'effectivement, dès qu'il fait des réunions, beaucoup de jeunes viennent le voir et l'écouter, mais il a des problèmes avec la police ou on lui supprime ses autorisations ou on ferme la salle pour qu'il ne parle pas. » Et elle dit ça à Poutine qui la regarde. Je dirais, moi j'étais sidérée par ce regard, l'air de dire « bah oui, c'est comme ça et on s'en fiche ». C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, il y a des masques qui tombent. Bon, je ne peux pas dire que j'étais surprise de ce manque de volonté de Poutine de maintenir ne serait-ce que les apparences. C'est-à-dire qu'actuellement, il est impossible à des candidats de l'opposition de faire campagne. Et effectivement, celui qui est vraiment redoutable pour le pouvoir, c'est Navalny. Pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs années qu'il met en évidence la corruption majeure dans laquelle baigne ce régime. Parce qu'après, on peut dire puissance, etc. Non, on a un pays qui est un pays où la population vit pauvrement, où les élites, les gens autour de Poutine sont absolument richissimes, achètent des villas, je dirais, sur la Côte d'Azur, en Californie, à New York, etc., cachent leur argent à Panama et aux îles Caïmans, où l'écart se creuse de manière absolument invraisemblable entre les 5% de plus riches et puis le reste de la population. Et tout cela, Navalny le dénonçait et le dénonçait avec des chiffres, avec des éléments, avec des vidéos. Donc effectivement, il y a eu toute une série de procès dont on n'arrivait même pas à comprendre, je dirais, de quoi on l'accusait, est-ce qu'il était coupable, pas coupable, etc. Mais en tout cas, maintenant, on peut lui dire, vous ne vous présenterez pas parce que vous avez deux condamnations en suspens. Donc tous les autres, je veux dire, que ce soit Zyuganov qui se présente au présidentiel depuis 1996, qui ne veut absolument pas être élu, il ne saurait pas en quoi en faire de cette présidence, Zhirinovsky qui est un clown absolu, non sans talent d'ailleurs, je dirais, qu'on a fait émerger à la fin des années 80 avec des liens avec le KGB, etc., ou tous les autres, je dirais la plupart des autres en tout cas, ils n'ont absolument aucune possibilité. S'ils s'opposaient réellement, ils ne pourraient pas de toute manière se faire enregistrer et faire campagne. C'est-à-dire que je crois qu'il faut bien comprendre quel est l'argument de M. Poutine. C'était votre première question, et quel est, sur quoi va-t-il mener sa campagne? Il va mener sa campagne sur le fait que, au bout du compte, il n'y a absolument pas de champ politique dans lesquels des adversaires, des démocrates, puissent s'exprimer et réellement débattre. Et effectivement, c'est l'aboutissement, je dirais, de la politique qu'il a menée tout au cours des dernières années.
Mais Tatiana Jean, il n'y a aucun candidat qui n'est en mesure aujourd'hui de rassembler un éventuel mécontentement de certaines parties de la population russe par rapport à l'économie, par exemple, dont vous parliez ?
Probablement Navalny, mais comme il ne sera pas autorisé à participer. En revanche, là où je serai en désaccord avec Cécile Bessier, c'est que justement la présence de Sobchak, de Yavlinsky et de Tito va permettre à Poutine de dire « bah regardez, moi j'ai mes candidats libéraux et démocrates et je les laisse participer ». À part les personnalités de Poutine, il y a aussi, et c'est aussi la population qu'il faut regarder. Moi j'ai regardé les sondages sur l'interprétation de la démocratie par les Russes. C'est assez flagrant. La démocratie pour les Russes, ça peut être le niveau de vie, certaines garanties, etc. Mais par exemple, l'opposition ou l'alternance au pouvoir, c'est pas dans la compréhension de la démocratie à la russe. Il y a peu de gens qui y tiennent et qui estiment finalement que ça a quelque chose de constructif d'avoir une opposition dans le pays ou que les partis s'alternent au pouvoir. Et au contraire, ça peut avoir un effet assez destructeur. Et Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse qu'évoquait Cécile Vessier disait, vous voulez qu'il y ait des Saakachvili qui courent dans la rue, qui perturbent l'ordre, comme c'est le cas à Kiev en ce moment. Et en fait, il reprend en quelque sorte cette compréhension de la démocratie dans la société pour la réinjecter et l'amplifier au retour. C'est ça le processus qui est extrêmement intéressant entre les élites, entre Poutine en fait, et la population russe en ce moment. Et en fait, quand on décrit toute cette ambiance, la question centrale aujourd'hui pour l'administration présidentielle pour ces élections, c'est le taux de participation. Pourquoi aller voter pour un candidat qui est finalement tout seul, le seul arbre de la forêt, de toute façon il va gagner, il n'a pas besoin de nos voix, etc.
Oui, aux dernières législatives, déjà la participation avait été bien moins importante qu'aux précédentes. Et là, au final, les sondages font un peu peur au niveau de la participation pour la présidentielle.
Absolument, c'est le grand défi en fait pour Kirienko, Sergei Kirienko qui est chargé de trouver une intrigue dans cette campagne. D'où la participation de Sobchak, très probablement il sera autorisé, justement que ça permet d'attirer un petit peu les jeunes. Après, les choses vont se faire comme en Russie avec l'aide des technologies politiques. On va organiser des fêtes le jour des élections. On va ouvrir des points de vente avec les produits intéressants à des tarifs réduits, etc. On va aussi organiser des référendums dans les villes sur les questions d'intérêt local qui intéressent beaucoup la population. Donc, les petites choses qui vont faire qu'on va essayer de monter quand même ce taux de participation. Mais je répète, aujourd'hui, je ne vois pas quelle est la solution vraiment qui pourrait aider à résoudre ce problème.
Dans les derniers sondages, Vladimir Poutine est donné à 75% des voix. Ça vous surprend ou...
Bah, écoutez, moi je pense que les sondages, ça reflète plus ou moins les choses. Mais quand vous commencez à creuser, c'est assez intéressant. Quand vous posez la question aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec la politique extérieure qui est menée? En général, ils sont d'accord. Est-ce que vous approuvez l'activité de Vladimir Poutine en tant que président? En général, ils approuvent. Poutine aujourd'hui, c'est une sorte d'idée nationale contre laquelle on ne peut pas s'avancer. Mais quand on commence à creuser et regarder à l'intérieur, êtes-vous content de l'état de l'éducation nationale? De l'état de santé publique, avez-vous suffisamment d'hôpitaux, l'état des routes, la police, etc. Sur aucun point, Vladimir Poutine va avoir 5 sur 5. C'est ce décalage qui est intéressant, en fait. Entre les dossiers très concrets que les gens vivent au jour le jour, le pays tel qu'il le pratique et le pays tel qu'ils le conçoivent, y compris grâce à l'image télévisée.
Mais manifestement, sur ces questions, les gens ont plutôt tendance à blâmer le Premier ministre et à se plaindre auprès du président. Donc Vladimir Poutine est plutôt épargné.
Tout à fait. Il joue très habilement là-dessus, en fait. Il parle au peuple par-dessus la tête des mauvais boyards et de temps en temps, il en jette un pour la population, comme c'est le cas du ministre du Développement économique, Alexei Ouloukaev, qui va aller en prison pour 8 ans. Et on ne sait pas trop, en fait, exactement pour quelles raisons.
Et ce sera le mot de la fin de Géopolitique. Merci à vous, Tatiana Kastoueva-Jean, directrice du Centre Russie NEI de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur du livre « La Russie de Poutine en 100 questions » qui doit paraître début janvier aux éditions Talendier. Merci Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut français de Géopolitique et chercheur associé à l'Institut Thomas More, auteur avec François Stomme de Géopolitique de la Russie aux presses universitaires de France. Et avec nous, par téléphone, il y avait aussi Cécile Vessier, professeure en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'université Rennes 2 et auteure de Les réseaux du Kremlin en France aux éditions Les Petits Matins. Sans sans oublier évidemment Pauline Leduc et Valentine Brasselet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Géopolitique, le débat s'est terminé. À la semaine prochaine.